Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, une émission sur l'amour. J'aime cette phrase de Thomas Bernard, selon qui tout est dit. La messe est dite dès l'enfance. Le reste de la vie n'est plus qu'une répétition du même, sans espoir de trouver du nouveau. Ainsi, me semble-t-il, pour saisir l'amour, est-il nécessaire de revenir aux premiers âges, celle de l'enfant, avant la parole, où le petit homme est encore baigné du regard aimant de sa mère, enveloppé dans l'ombre, bercé par la lumière qui irradie son visage. Cette émission tournera autour de la poésie, car s'il y a bien une activité humaine qui prend sa source dans la beauté et se développe, s'enrichit à travers les trésors de la langue, c'est bien sûr l'amour, ce petit ange qui tire des flèches. Pour une fois, nous serons raccord avec l'actualité, car vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin. Alors, en hors d'œuvre, une traversée de la carte du tendre.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure. Them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, they push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up. Forget the stars, I'll kiss you again. Between the bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink it one more time and I'll make you mine. Keep you apart, deep in my heart, separate.
Ce visage sublime et divin de notre mère, on le retrouve dans les admirables visages de Léonard de Vinci, au sourire énigmatique. Ils sont le symbole d'un amour indéfectible. Les hommes, au moment de mourir, dit-on, plongés dans la détresse, crient souvent « maman », celle qui les a accueillis, aimés, rassurés. Observons un bébé. Comment il fixe sa mère, comme une idole, un phare. C'est grâce à cette enveloppe enrombante, en écho au regard bienveillant de sa mère, qu'il pourra être lui, entendez, lui. C'est-à-dire à son tour porter la lumière, source de vie. Freud parle de libido. Ceci dit, tout amour qui suit vient chercher à notre insu la satisfaction d'être de nouveau regardé comme objet précieux, réitérant cette rencontre initiale. Cela suppose la confiance en l'autre qui nous offre la possibilité d'être aimable, aimé par l'autre. Pour pouvoir aimer l'étayage de l'amour maternel, ce que Winnicott, le psychanalyste anglais, appelle la mère suffisamment bonne, on pourrait ajouter pas trop mauvaise, est-il une condition sine qua non pour aimer ? Il faut pour aimer, comme dans le conte grec et sa chèvre Amaltée, avoir été nourri par un bon nez, blanc, lumineux. Alors, l'amour. Poème anonyme du XVIIe siècle. L'amour de moi s'y est enclose. L'amour de moi s'y est enclose dedans un joli jardinet, où croient la rose et le muguet, et aussi fait la passerose. Ce jardin est bel et plaisant, il est garni de toutes fleurs. On y prend son ébattement autant la nuit comme le jour. Hélas, il n'est si douce chose que ce doux rossignolet qui chante au soir, au matinée, quand il est là, il se repose. La vie l'autre jour cueillir, la violette en un verre près. La plus belle conque je vis et la plus plaisante à mon gré. Je la regardais une pause, elle était blanche comme le lait et douce comme un agnelet, vermeillette comme une rose. Les problèmes autour de l'amour découlent du fait qu'on a beaucoup parlé autour de lui et que l'expérience de l'amour est singulière. Qu'il n'apparaît que lors de cette rencontre entre deux êtres, ce qui se passe entre eux est aussi particulier, non réductible à une autre rencontre. L'amour n'est jamais pluriel, mais un partage entre deux solitudes. Un peu d'histoire. L'amour, le mot amour, ainsi que l'amour courtois, appelé en occitan fin amour, apparaît au XIIe siècle, à la même époque que la construction des grandes cathédrales gothiques, à la gloire de l'amour divin. Cette conception quasi religieuse des rapports homme-femme apparaît précisément à une époque où la violence est partout, même dans les rapports sexuels, justement. Or, que propose l'amour courtois ? En quelque sorte, une déification de la dame mise à distance dans un jeu où le désir est exacerbé par une sorte de jeu suspensif, de tournoi, où la possession physique, car malgré ce que l'on entend souvent, la cour amoureuse peut se terminer par la possession physique, est l'oméga d'un alpha qui remet à plus tard et par là lui donne une valeur, l'acte de possession. En parallèle, dans un monde chrétien à la suite du platonisme, le corps et l'esprit se voient séparés. Le mot « amour » qui vient d'âme redouble l'idée que si l'amour peut être consommé, son origine viendrait de l'âme. Il suppose un monde où le discours porté sur l'amour diffère et rend plus problématique la rencontre des corps. Lorsque Dante, au terme de son voyage initiatique, retrouve Béatrice, elle est quasiment mise à la place de la Vierge Marie. Mais ce qui nous parle dans la Divine Comédie, c'est que l'amour chez Dante est à la fois manque, désir et mouvement universel qui anime les astres. En latin, siderare, c'est l'étoile et le désir donc. Lorsque dans l'enfer, la vision est trop insoutenable, Dante s'évanouit. L'expérience du mal est un traumatisme. Le sommeil est réparateur. Dernier vers du paradis de Dante. Ô lumière éternelle qui seule en toi réside, seule te pense, et par toi entendu, et t'entendant rit à toi-même et t'aime. Ce cercle ainsi conçu, qui semblait en toi lumière réfléchie, longuement contemplé par mes yeux à l'intérieur de soi, de sa même couleur, me sembla peint de notre image, si bien que mon regard était tout en elle. C'est Béatrice. Tel est le géomètre attaché tout entier à mesurer le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque. Tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment se joint l'image du cercle, comment elle s'y noue. Mais pour ce vol, mon aile était trop faible, sinon qu'alors mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance. Mais déjà, il tournait mon désir, et vouloir tout comme roue également pousser, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Maintenant, une petite interview avec Marguerite, délicate et pleine de pudeur.
Alors, bonjour à Marguerite, nous sommes au café Le Molière, et on va commencer par une citation de Louis-Ferdinand Céline. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Qu'en pensez-vous ?
Non, rien du tout. Strictement rien.
Ça, c'est Céline. Hein. C'est toujours assez négatif et pessimiste sur la nature humaine. C'est-à-dire que l'amour, c'est un peu quelque chose qui ferait qu'on serait dépendant de l'autre ou quelque chose comme ça, je pense. C'est ce qu'il veut dire.
De l'autre et même des caniches. Non, ça... Bon.
Non. On remarque qu'en français, il y a qu'un verbe pour aimer. Tandis qu'en anglais, paraît-il, hein, il y a deux verbes, il y a to love et to like. Hein. C'est quoi la différence ou les points communs entre aimer quelqu'un, par exemple, et aimer un livre ? Vous voyez ça comment ?
On dirait qu'aimer un livre, on l'oubliera, tandis qu'aimer quelqu'un, on l'oubliera pas. Après, de ce que tu disais en anglais, ça ne me semble pas du tout être la même chose. Évidemment, to love, c'est plus fort que to like. Ouais. Et puis, to love, ça ne s'oublie pas, encore une fois.
Très bien. Alors, comme c'est un peu mon dada, c'est souvent une question que je pose aux gens sur n'importe quel thème. C'est revenir à l'enfance. Est-ce que vous vous rappelez d'une amourette, lorsque vous étiez petite, d'une histoire d'amour ? Moi, je m'en rappelle, moi.
Moi, je me souviens que quand j'étais rentrée au CP, ma sœur m'avait dit qu'il fallait que j'aie un amoureux. Donc, j'en avais un. Mais non, j'ai pas de... le premier amour dont je me souviens, j'avais déjà 15 ans.
15 ans ?
Voilà.
Et c'était qui ?
C'était un garçon de mon âge, dont j'étais très très amoureuse. Mmh. Je me souviens que ma mère m'avait dit, j'en avais parlé à ma mère et je lui avais dit que j'étais follement amoureuse, comme on peut dire à 15 ans, que c'était l'homme de ma vie, etc. Mmh. Tu sais, les conneries qu'on dit quand on a 15 ans. Et ma mère m'avait dit, on était dans la voiture, on m'avait dit, mais ma pauvre fille, si tu crois qu'on trouve l'homme de sa vie, on trouve un garçon avec lequel on s'entend bien, et puis c'est déjà pas mal si tu le trouves. Et j'avais trouvé ça, même à 15 ans, j'avais vu qu'elle m'avait dit des choses qu'elle n'aurait pas dû me dire. Et puis j'en ai voulu, puis voilà.
Très bien. Et on rentre dans le vif du sujet. Avez-vous eu un jour un coup de foudre ? Parlez-moi de ça, si...
Oui, j'en ai eu souvent, tous les jours.
Tous les jours ?
Pas forcément pour des gens, pour des choses, pour des livres, des films, voilà.
Mais pour des gens ?
Pour des gens, oui, ouais. Souvent.
Ouais. Souvent. C'est quoi un coup de foudre ?
Un coup de foudre, je ne sais pas, c'est instinctif, c'est bestial, c'est... Voilà.
C'est le physique, c'est la manière de parler, c'est... La coiffure.
C'est un ensemble. Non, c'est pas la coiffure.
Non, je plaisante.
C'est un ensemble. C'est une possibilité.
Et est-ce que généralement, justement, c'est le même genre de personne qui vous attire ?
Oui. Je ouais.
C'est-à-dire ?
Bah, je pense qu'on est toujours attiré par le même genre de personne.
Vous, c'est quoi comme genre de personne ? Comment vous pourriez définir ? Les critères, on va dire.
Les critères, je suppose que c'est des hommes qui ressemblent à mon père, puisque c'est ça que... Non ?
Ah oui, vous avez remarqué ça ?
Ouais, je pense que c'est très certainement, ce sont toujours des hommes qui ressemblent à notre père.
Ah, c'est-à-dire, il est... Comment vous le décririez, tiens, votre père ?
Quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de très à l'écoute. Voilà, je crois que c'est ça les critères. Après, le reste, c'est accessoire.
Bien, bah, très bien. Et peut-on, c'est une question, hein, peut-on aimer plusieurs hommes à la fois ?
Ah oui, je pense, oui. Oui, oui clairement.
Parce que le modèle, un peu, on va dire, le modèle bourgeois, c'est être marié, avoir un mari, et puis on aime une personne, mais parfois dans la vie, ça peut arriver qu'on soit attiré par une autre personne.
Bien sûr.
Ouais. Ah, comment on fait pour...
Je crois que moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui fantasme beaucoup, qui rêve beaucoup. Donc, je n'aime pas qu'une seule personne. Après, voilà, j'aime beaucoup mon mari et j'aime beaucoup d'autres hommes, platoniquement ou peut-être pas.
Il n'y a pas un acteur, c'est Géraldine qui m'en a parlé.
Tu exagères. Oui, mais ça, c'est même plus du fantasme, c'est le fantasme d'un fantasme. Ouais. Voilà, c'est au-delà du fantasme, ça.
Alors.
On exagère, j'allais dire.
Comment sait-on qu'on aime quelqu'un ? Les signes avant-coureurs ou après-coureur ?
Après-coureur, je ne sais pas, mais avant-coureur, je vais dire des choses très galvaudées. Voilà, on a. Une obsession, une envie d'être toujours... voilà, une obsession, tout simplement.
Et on dit souvent qu'un amour passionné dure 3 ans, ce fameux cliché, là. Et puis que le quotidien tue le couple, ce genre de... de clichés. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'un amour qui dure?
Ben ça, c'est ce que me disait ma mère quand j'avais 15 ans. Et avec le recul, maintenant que j'en ai 47, je sais qu'elle avait raison. C'est-à-dire que oui, l'amour-passion, ça ne dure pas. Et puis, si on a la chance de qu'il soit remplacé par un amour tendre, un amour au quotidien, c'est déjà pas mal.
Voilà, ben, je pense j'ai fait le tour des questions. Oui.
On va s'arrêter là. Mais c'est pas mal. C'est bien.
La cinquième saison. Après le risque d'une séparation, j'ai écrit ce texte. La cinquième saison. La cinquième saison n'est ni froide, ni chaude. On y accède par un chemin escarpé, creusé à même la craie.
la paroi reçoit les joies fossiles. Sans le croire, on débouche sur une forêt ancienne, très bleue. La forêt d'un être a inventé, à la lisière, derrière les arbres, tu cours en dormant. Cette saison est cachée dans toutes les autres. On croit la connaître, elle exige le chagrin, celui qui tord le cœur, la serpillière. Le chagrin froisse, déforme, appelle la laideur, mais la beauté dans l'appel. Tous les bûcherons sifflent en cherchant le chemin caché. À la forêt, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, le serment à la hache. Et si au fond l'amour n'était qu'un mot, bien qu'écrivain, peut-être parce que je le suis, je me méfie du langage, car parfois les mots, en nommant une expérience, la réduisent, la déforment, la rend fausse. Par amour, faut-il déceler ce qui se dit entre les lignes, dans le creux, le vide, les interstices? Vendredi, nous avons vu tous les hommes armés d'une rose faire la queue devant la porte du fleuriste. C'est un peu ridicule. Afin de remettre les pendules à l'heure, nous écouterons notre ami Paul Léoto tailler en pièces tout ce qui est sentiment. Précisément, et cela s'explique, parce que ce que nous avons dit en début d'émission, cette mère, la mère de Paul Léoto, l'a abandonnée, ne l'a pas regardée. Cela explique sûrement une vision tout à fait réductrice de l'amour, mais si amusante. Alors, écoutons l'ami Paul, dont nous avons déjà parlé dans une autre émission Écrivain en pantoufles.
L'amour, c'est le physique. C'est l'attrait charnel. C'est le plaisir reçu et donné. C'est la jouissance réciproque. C'est la réunion de deux êtres sexuellement faits l'un pour l'autre. Hein ? Sexuellement faits l'un pour l'autre.
J'ai bien entendu.
Voilà. Le reste, les hyperboles, les soupirs, les élans de l'âme sont des plaisanteries, des propos pour les niais, des rêveries de beaux esprits impuissants. La passion, c'est le feu que met en nous ce plaisir. Le sentiment, c'est l'attachement à ce plaisir et comme qui en dirait la gratitude, si ce mot pouvait s'employer en amour.
Eh bien, merci à Simon à la technique, Géraldine à la programmation musicale, et au mois prochain pour une émission spéciale sur Richard Wagner.